VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 17h à Dakar et Conakry et 18h à Libreville et Kinshasa. Dans l'est de la RDC, 6 civils ont été abattus lundi dans 3 attaques attribuées aux ADF Nalou, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Beni, dans le nord Kivu. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les 3 attaques se sont succédées lundi dans l'après-midi à Tenembo, Moukoko et à Linzo-Sensen. L'administrateur du territoire de Beni, Missi Kalonda, a indiqué à l'AFP que toutes les victimes avaient été tuées par armes à feu et qu'un militaire avait été blessé. Au total, les attaques ont fait 6 morts selon l'administrateur. Monsieur Kalonda a en outre accusé les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées ADF d'être responsables de ces nouveaux meurtres. Le porte-parole de l'armée dans la région a confirmé les attaques sans être en mesure de donner un bilan, mais a accusé lui aussi les ADF d'en avoir été à l'origine. Le Nord Kivu est déchiré depuis plus de 20 ans par des conflits armés alimentés par des différents ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières de la région et des rivalités entre puissances régionales.
Au Burkina Faso, 8 à 9 personnes, y compris des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, auteurs du coup d'État éclair du 16 septembre, ont été inculpés pour leur implication présumée dans l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara en 1987, a annoncé l'avocat de la famille, maître Benewende Stanislas Sankara. Certains ont déjà été déférés, a-t-il déclaré. Le juge d'instruction a présenté ce mardi les rapports d'autopsie et de balistique. En Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle de dimanche dernier a appelé les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue en cas de contestation des résultats attendus. Des précisions avec Timothée Donangmaï.
Lors d'une conférence de presse ce mardi à Conakry, le chef de la mission, Frank Engel, a également critiqué le manque de préparation de la commission électorale. Lundi, les 7 adversaires du président sortant, Alpha Condé, ont réclamé l'annulation du premier tour, jugeant le scrutin entaché de fraude. Le leader de l'opposition guinéenne, Selou Dalaï Diallo, a déclaré qu'il mobiliserait ses partisans pour se faire entendre. « On n'a pas de recours, la justice est inféodée », a-t-il lancé. Le taux de participation au premier tour a été estimé à 60% par les observateurs européens qui ont déploré les problèmes d'organisation de la CENI. Le chef de la mission, Frank Engel, a regretté que la commission électorale n'ait pas suivi tous les conseils qui lui avaient été donnés sur le scrutin. M. Engel s'est cependant félicité de l'absence de violence et de boycott le jour du premier tour, estimant que de ce point de vue, le scrutin du 11 octobre a été exemplaire pour le pays. Les premiers résultats ne seront pas connus avant ce soir ou mercredi. Pour les annoncer, la commission électorale guinéenne dispose de 72 heures à partir de la réception du dernier procès-verbal des quelques 14 000 bureaux de vote du pays.
Et la CENI est au centre d'une controverse sur le transfert des fichiers électoraux 2015 de la diaspora guinéenne aux États-Unis. Mamadi Condé, ambassadeur de Guinée à Washington, demande des comptes à l'organisme de supervision des élections qui aurait, selon lui, égaré les données de base des ressortissants guinéens vivant en Amérique. Georges Léonard Sagno lui a tendu le micro.
Ils ont délégué leurs représentants de New York pour venir prendre les ordinateurs et les clés contenant les données de Washington. Ces clés ont été regroupées à New York plus les 3 ordinateurs. New York avait 2 ordinateurs plus 4 clés. Nous, on avait 3 ordinateurs plus 6 clés, ce qui fait 10 clés. Mais il n'y a que 5 clés, semble-t-il, qui sont arrivées à la CENI. Où sont passées les autres 5 clés? Donc, cette enquête, c'est à la CENI de déclencher et situer les responsabilités. Ils ont délégué quelqu'un avec ordre de mission pour venir prendre les données ici. D'ailleurs, j'avais même fait opposition en disant que pourquoi Washington doit transmettre ces données à New York. New York dépend de Washington. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une ambassade là-bas, ça c'est une dérogation. Mais la dérogation consulaire ne doit pas amener la CENI à considérer New York comme le point de départ. Non, c'est une erreur. C'est Washington qui est le point de départ. Or, c'est l'inverse qui se produit. J'ai dit jamais, je ne suis pas prêt à transmettre mes données à travers New York. Ils ont dit non, il y a quelqu'un qui vient avec votre mission. Veuillez lui remettre les données. Et c'est ce qu'on a fait. On a exécuté. Depuis lors, on a perdu les traces de nos clés.
C'était Mamadi Condé, ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Au Rwanda, la Chambre des députés a commencé lundi l'examen du projet de réforme de la Constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. L'initiative fait suite à des pétitions signées par 3 700 000 Rwandais, selon les autorités. Plusieurs observateurs qualifient cette campagne de pétition de manœuvre orchestrée par le pouvoir. Le président a affirmé qu'il ne briguerait un nouveau mandat que s'il était plébiscité par le peuple rwandais.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
70 jeunes Soudanais se sont rendus en Syrie et en Libye pour rejoindre les rangs du groupe État islamique, selon le ministre de l'Intérieur soudanais Ismat Abdelrahman. Le point avec Michel Joseph.
C'est la première fois que les autorités soudanaises avancent un chiffre précis concernant ces jeunes attirés par le groupe djihadiste. Plusieurs étudiants du Soudan, certains détenteurs de passeports occidentaux, se sont rendus en Syrie via la Turquie pour combattre avec l'EI, selon des médias. Le ministre soudanais de l'Intérieur, Ismat Abdelrahman, que cite l'AFP, a fait savoir que son pays, en coordination avec le gouvernement turc, avait réussi à empêcher plusieurs personnes de rejoindre l'organisation djihadiste opérant en Irak, en Syrie et en Libye. Selon lui, les services de sécurité et de l'éducation ont lancé une campagne de sensibilisation pour empêcher les jeunes Soudanais d'aller combattre avec le groupe djihadiste. En juin, 12 étudiants, dont des Britanniques et des Canadiens, auraient quitté l'Université de sciences médicales et de technologie à Khartoum pour la Turquie afin de rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Un autre groupe de 9 étudiants britanniques d'origine soudanaise inscrits à la même université aurait fait de même.
Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a accusé ce mardi les services secrets russes d'avoir abattu en juillet 2014 le Boeing 777 du vol MH17 de Malaysia Airlines, assurant la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur. Ces déclarations interviennent après la publication aux Pays-Bas des résultats de l'enquête internationale sur ce drame qui a fait 298 morts néerlandais pour la plupart. Le rapport a conclu que l'avion avait été abattu par un missile sol-air tiré depuis une zone de l'est de l'Ukraine où s'affrontent militaires ukrainiens et séparatistes pro-russes. Moscou a contesté cette version. Le président russe Vladimir Poutine a vivement critiqué ce mardi le manque de coopération des États-Unis dans le conflit syrien et mis en garde contre le parachutage de munitions aux rebelles luttant contre le régime de Bachar al-Assad. Monsieur Poutine a reproché aux Américains de ne jamais répondre quand les Russes leur demandent quelle cible l'aviation russe doit bombarder en Syrie. Il a par ailleurs assuré que la Russie n'aspirait pas à un quelconque leadership sur la Syrie. Dans le sud de l'Afghanistan, des tirs sporadiques ont secoué ce mardi les alentours de la ville de Ghazni. La veille, les forces gouvernementales avaient repoussé une offensive des talibans. 2 semaines après leur assaut victorieux contre une autre capitale provinciale, Kunduz, dans le nord du pays. Cette offensive contre Ghazni, capitale de la province éponyme au sud de Kaboul, a relancé les inquiétudes sur la volonté de la rébellion islamiste de progresser au-delà de ces fiefs ruraux du sud du pays et de s'en prendre pour la première fois depuis 2001 à des grands centres urbains. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël utiliserait tous les moyens à sa disposition et déciderait de mesures fortes face à l'escalade des violences avec les Palestiniens, rapporte l'AFP. Devant le Parlement, M. Netanyahou a prévenu le président palestinien Mahmoud Abbas qu'Israël le tiendrait pour responsable en cas de nouvelle détérioration de la situation et l'a pressé de faire en sorte que cessent les incitations à la haine contre les Israéliens, selon ses termes, soulignant que le gouvernement allait décider aujourd'hui même de moyens supplémentaires forts qui prendront effet sur le terrain le plus rapidement possible. Au Pakistan, 8 hommes condamnés pour meurtre ont été pendus aujourd'hui. Le Pakistan a mis fin à un moratoire sur la peine de mort en place depuis 6 ans. Ceci en réaction à une attaque des talibans en décembre contre une école de Peshawar qui avait fait 154 morts, en majorité des enfants. Et ici aux États-Unis, le premier débat télévisé des 5 candidats démocrates à la primaire de la présidentielle américaine de 2016 aura lieu ce soir à Las Vegas, dans le Nevada.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.